François Gonz est écrivain, journaliste, photographe, céramiste et consultant en management interculturel. Il est dans le studio de Bruit de Chine pour nous parler de son dernier livre, Professeur d'anglais en Chine, édité chez L'Harmattan. Alors François Gonz, vous connaissez bien l'Asie, mais comment la Chine est-elle entrée dans votre vie ?
Je dirais que la Chine est rentrée dans ma vie par le Japon, d'abord.
Parce qu'en fait, je me suis intéressé au Japon pendant longtemps, 25 ans, je veux dire. Et j'ai voulu tourner une page à un moment donné dans ma vie, vers 2003-2004. Et j'avais des amis bretons, comme j'habitais en Bretagne à l'époque, qui étaient à Shanghai à ce moment-là, vers 2004-2005. Et ils m'ont proposé de venir. Bah, tu veux te changer les idées, ben t'as qu'à venir à Shanghai, puis voilà.
Ça, c'est
donc
radical,
j'ai fait ça. Donc je suis allé passer d'abord 2 mois à Shanghai en 2005. Ça faisait avril-mai. Puis ça m'a beaucoup plu. Et donc je suis retourné l'été. Et puis en fait, j'y suis retourné un certain nombre de fois. Puis finalement, je m'y suis installé. Et puis j'ai.
Et vous avez appris le chinois à Shanghai.
Pardon ?
Vous avez appris le chinois.
Oui, j'ai appris le chinois à Jiaotong Dashui à Shanghai, donc une grande université. Mais en 2 ans, c'est pas suffisant. Donc c'est un chinois très basique, très pour la vie de tous les jours, disons. Mais pas un chinois très érudit, non.
Non, vous pouvez pas lire Confucius, mais vous pouvez survivre.
Oui, moi je peux lire quand même quelques articles de presse, mais bon, ça, il faut quand même que je regarde dans le dictionnaire assez rapidement des caractères que je ne connais pas. Oui.
Ah bah évidemment. Hein.
Oui, donc.
Alors donc, vous avez, sur toute votre carrière professionnelle, vous avez vécu 25 ans au Japon, donc, mais aux États-Unis.
Je n'ai pas vécu 25 ans au Japon, je
non,
me
non,
suis intéressé.
Non, non.
Pardon.
Vous avez vécu à l'étranger, je veux dire.
Voilà, d'accord.
États-Unis et dans bien d'autres
oui,
endroits.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Et donc, que vous ont appris toutes ces années de vagabondage professionnel ?
Oui, c'est. Bah, c'est un vagabondage, certes, mais c'est une construction. Je pense que petit à petit. C'est plus de l'expérience. D'ailleurs, c'est plus par l'expérience, ma sensibilité propre, mon expérience, mon observation, que j'en suis arrivé à. Non pas à des théories, parce que c'est pas de la théorie ce que je fais, mais enfin ce que j'écris du moins par exemple dans ce livre, mais arriver à essayer de mieux comprendre et comme de comprendre par exemple les Japonais ou les Chinois ou les Français, etc., les Américains, mais sans rentrer dans des généralités ou sans rentrer dans des théories, des choses comme ça, ils m'intéressent pas. La théorie ne m'intéresse pas.
Donc à travers l'expérience.
C'est l'expérience qui m'intéresse. Oui.
Alors, vous parlez combien de langues ?
Oh non, je ne parle pas 36 langues. J'ai appris le Wolof quand j'étais en Afrique, quand j'étais enfant. Donc j'ai appris l'américain. Je parlais l'américain quand j'étais enfant, je ne parlais pas français. Donc quand je suis arrivé en France à l'âge de 4-5 ans, il a fallu que j'apprenne le français. Bon, en fait, j'ai appris des langues et puis ne les parlant plus comme le japonais, par exemple, je ne les parle plus.
Ah oui,
donc il faut que je les réapprenne. Donc c'est un peu comme le chinois aussi aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans que je ne parle pas le chinois avec des chinois, donc j'en rencontre peu. Donc je suis très content de rencontrer des chinois aujourd'hui.
Mais voilà, c'est ça, dans le studio de Bruit de Chine,
donc
vous avez des chinois.
Ça va me relancer tout de suite, donc je vais me remettre au chinois.
L'acculturation, ça n'existe pas, c'est un mythe pour les expats.
Bah, moi je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'en fait, en France, par exemple, on a beaucoup de cabinets de consultants en interculturel, de livres sur l'interculturel, de théories sur l'interculturel. Et puis, il y a beaucoup de mots pour qualifier les étrangers. Enfin, comment les Français voient les étrangers, comment on voit les Chinois, comment on voit les Japonais, etc. Donc l'acculturation, par exemple, ça veut dire donc d'une certaine manière comment m'intégrer, comment m'adapter. Mais m'adapter, c'est différent encore. Mais comment je vais être, comment je vais ou comment la société va m'intégrer. L'acculturation, c'est presque un programme politique. Alors que m'adapter. C'est moi-même qui peut m'adapter ou pas. C'est une question de sensibilité, je crois. Vraiment de vivre, on dit en chinois, en japonais, on dit vivre les choses, sentir les choses qui sont là, qui passent, que l'on vit. Et il n'y a pas besoin de chercher des explications très complexes ou de créer des théories. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de vivre ce qu'on vit au moment où on le vit. C'est ça qui est important en Chine.
Alors c'est la céramique qui vous a fait découvrir Ting de Chen.
Oui.
la capitale mondiale de la porcelaine. Et comment on prononce Qingdezhen?
Qingdezhen.
Ah ouais, c'est pas pareil. Alors, bref.
Voilà.
La céramique, qui est la capitale mondiale de la porcelaine. Pourquoi
oui,
vous
tout
avez,
à fait.
Vous êtes
arrivé Bon, il se trouve que j'avais mon amie chinoise qui était du Jiangxi, donc Qingdezhen, c'est dans le Jiangxi, province du Jiangxi. Donc, on voulait quitter Shanghai et étant sculpteur, ayant fait une université de sculpture à Shanghai et s'intéressant à la céramique, ayant fait de la céramique également à Shanghai. Donc, elle a. Puis moi, j'en avais un peu assez de Shanghai. Bon, voilà.
Donc voilà,
c'est un peu artificiel. Donc, Shanghai me semblait, après 5 ans, assez artificiel. Puis c'est une ville que je connais par cœur parce que je l'ai parcourue à pied pendant 5 ans. J'ai fait 3000 km à pied, environ.
Oh, c'est pas
donc,
mal, effectivement.
Vous
aviez envie de voir.
J'avais envie de faire autre chose. Et puis, j'avais envie, d'après, justement, peut-être avec ce chinois que j'ai appris à l'université. C'est de pouvoir l'utiliser, mais dans une ville où il n'y a pas d'étrangers. Donc, obligé de parler chinois.
Mais sinon, vous êtes céramiste. Vous êtes céramiste, finalement.
Bah oui, je suis aussi céramiste. Voilà. Donc, j'ai ramené beaucoup de pièces. Bon, mais je n'ai pas refait de céramique depuis 2 ans.
Ah bah, c'est comme
mais
les
je
Chinois.
Mais c'est pareil. En fait, chez moi, je ne suis pas quelqu'un, je serais... Voilà, j'ai un diplôme. Alors, évidemment, j'ai un diplôme de doctorat de la Sorbonne en histoire de l'art du Japon. OK, ça, c'est pour me présenter, si on veut. Mais ce n'est pas important, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est le faire. Donc, je dis qu'en effet, si je me remettais à la céramique maintenant, je pense que je serais doué. Si je me remettais à la calligraphie maintenant, je serais doué,
voilà,
etc.
Vous avez commencé à apprendre des choses, après, bon,
bon
faut
et
continuer.
Les choses s'accumulent, mais toutes ces choses-là sont complémentaires pour moi. Il n'y a pas de... Donc je ne veux pas non plus être, quand je dis que je suis spécialiste du management relationnel ou interculturel, c'est vrai, mais en même temps...
Mais pas que.
Voilà, pas que, et je ne veux pas qu'on me mette dans une case.
Non,
je suis pas dans une case.
On va pas vous mettre dans une case.
Alors, c'est tout.
Le samedi 3 septembre 2011, vous débarquez à Qingdezhen, après 36 heures de voyage, et vous avez été recruté comme professeur de conversation anglaise, alors que vous êtes français, que vous n'avez jamais enseigné l'anglais.
Oui, exactement.
Alors,
oui.
Comment ça
voilà,
peut
donc
se faire,
c'est encore une autre aventure.
Voilà, ça c'est l'aventure du livre. Voilà.
Bah, d'abord, tout est possible en Chine, on peut faire ça. Je veux dire, c'est pas. Donc, ça n'a pas été simple non plus, c'est vrai, pour toutes ces questions de visa, etc. En France, pour faire un visa de travail en Chine, à cette époque, c'était pas du facile. Mais ça s'est fait. Et. Je pense que c'est du feeling, en fait. Ça se passe. Bon, j'habitais déjà à Qingdezhen. Donc je suis pas arrivé de France comme ça directement en Chine, boum, il connaît rien la Chine, et bon, non, c'est pas ça. Donc j'avais déjà il y avait un feeling de la Chine depuis longtemps et je connaissais déjà Qingdezhen. Bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire, ça serait peut-être pas mal, d'autant que je parle bien l'anglais, donc et puis je crois que j'ai la fibre aussi de, et je crois que ça se sent bien dans mon livre, c'est que j'ai j'aime enseigner, j'aime initier, j'aime faire découvrir des choses. Dans ce livre, on sent bien qu'il y a, une fusion qui se fait. Bon, la fusion, je la vivais déjà avec mon amie chinoise, mais là, il y a une fusion qui se fait, parce que c'est un mot très chinois, fusion. Je ne sais pas comment on dit fusion en chinois, mais c'est un mot très chinois. C'est parce que la fusion, ça existe dans la famille chinoise. Nos amis chinois ici, ils ont aussi des familles. Et y a un moment où on fusionne. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Bon, c'est ça qui me...
Et moi, j'ai senti une complicité.
Il y a une amitié, une complicité.
Entre les étudiants et vous.
Tout à fait, mais même aussi sûr. Avec les enfants, puisque j'ai enseigné l'anglais à des enfants.
Dans une école maternelle, ça n'a pas été simple non plus. Ça.
Non, pas simple, non.
Question pratique, comment se passe une rentrée à l'université Gaochan?
Comment se passe une rentrée Ben, comme je crois que j'ai expliqué un petit peu, d'abord il y a l'emploi du temps, c'est pas tout à fait facile, parce que l'emploi du temps je peux le lire en chinois, mais c'est pas parce qu'on m'a dit vous allez faire ça que ça va se passer comme ça. Donc en fait, d'une certaine manière, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est très chinois, et c'est très bien, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas, on n'a pas à se poser 36 000 questions comme nous faisons, nous Français, nous poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, où on va, avec qui, ça commence à quelle heure.
Dans quelle salle.
Dans quelle salle, etc. On est tout le temps, enfin pas tout le temps, mais quand même très souvent, nous Français, on pose des questions, on mitraille, ça mitraille à 10 questions à la suite. Très souvent, et pour la rentrée, par exemple, des classes, mais très souvent, j'étais avec des amis céramistes, des amis chinois, pour à n'importe quelle occasion, je ne pose pas de questions. Je suis le mouvement. Et c'est beaucoup mieux parce qu'à ce moment-là, je suis vide, ma tête est vide, et je peux la remplir des choses qui viennent parce qu'elles sont là. Elles viennent parce qu'elles viennent. Je vis ce que je vis au moment où je le vis. Et il n'y a pas d'angoisse. Et je ne suis pas en train, oui, c'est ça, de m'angoisser en disant c'est à quelle heure, je vais rencontrer qui, je vais faire quoi.
Ça ne marcherait pas sinon. Vous seriez revenu au bout de 2 mois, je pense.
non, je serais revenu tout de suite, oui, au bout de 2 mois ou au bout de quelques jours. Et je crois que c'est quand même une grande difficulté pour les Occidentaux qui sont en Chine, au Japon ou dans les pays bouddhistes. J'ai dit bien, je ne sais pas, je ne connais pas les autres pays, mais les pays, disons, qui sont dans une ère culturelle bouddhiste comme la Chine, bouddhiste taoïste, bouddhiste confucianiste évidemment, mais bouddhiste, shinto au Japon par exemple aussi, on n'est pas du tout dans le même genre de fonctionnement, cérébral, vital, sociétal, de la vie de tous les jours. On ne fonctionne pas du tout de la même manière, psychologique, c'est complètement différent, c'est même antinomique. C'est ça qui est très intéressant, ce qui m'intéresse dans l'interculturel aussi, c'est il y a pour énormément de choses, on est antinomique, c'est-à-dire qu'on est contraire, quoi. On est opposé.
Ouais, vous vivez le contraire en permanence.
Mais ce n'est pas impossible de...
Ah ben non, vous l'avez
voilà,
prouvé.
Voilà, je l'ai fait, bon, on peut le faire. Je veux dire, je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, il n'y a pas que moi, évidemment. mais on peut vivre ainsi en Chine. Je ne sais pas, pour des Chinois en France, c'est peut-être plus difficile, mais nous, il peut y avoir des Français, par exemple, ou des étrangers qui vivent en Chine et qui vivent bien, qui dépassent justement leur propre culture, leurs propres problèmes et leurs propres blocages, etc., et qui peuvent se couler dans le mouvement. C'est possible.
Alors vous écrivez « Enseigner, cela signifie toujours pouvoir se dépasser », mais en Chine, le dépassement est toujours maximum, finalement.
Je pense que... En fait, l'idée de départ, c'était de dire que comme je ne suis pas natif, je suis prof d'anglais à Jingdezhen, à Gaozhuan, mais je ne suis pas natif, je ne suis pas anglais, je ne suis pas américain, je ne suis pas néo-zélandais, je ne suis pas australien. Donc je suis français, il faut que je me dépasse. Je n'ai pas le choix. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, d'abord. Et en effet, le dépassement, c'est aussi, bon, ça a un côté peut-être philosophique, religieux, bouddhiste. Bon, je pense qu'il y a ça, le dépassement dans le sens où je suis capable d'aller justement au-delà de moi-même, c'est-à-dire d'oublier que je suis français avec une certaine éthique, avec une certaine critique, comme vous avez raison tout à fait de dire ça, avec des questions que je peux poser à des Chinois, ou alors des choses qui m'intéressent, par exemple sur l'interculturel. Je me souviens très bien que je demandais parfois à mon ami chinois, je lui disais, mais l'autre jour j'ai vu un Chinois, il a fait ci, il a fait ça... Et elle répondait de manière très, comment dire, elle pensait que j'étais insolent, que je posais des questions que je n'avais pas posées. Nous, les Chinois, on est comme ça, point. Tu n'as pas à poser cette question-là.
Oui, ça, ça.
Tu ne peux pas poser une question comme ça.
Ça ne s'explique pas, oui.
Donc, alors c'est pour ça aussi qu'un certain nombre de choses, je l'écris dans mon livre, parce que je ne pouvais pas. Il y a des choses qui fâchent. Mais ce n'est pas des sujets politiques, des choses comme ça, ça n'a rien à voir. C'est des sujets... de comportement. Mais le fait de me poser des questions sur le comportement, les miens d'ailleurs, parce que je parle de moi aussi dans ce livre, moi-même je me mets en question. Je ne suis pas en train de dire les Chinois sont si ça, je dis les Français aussi, ou moi-même je suis comme ça. Donc je me remets en question, je suis capable de le faire.
Tout à fait. Mais la question de fond reste finalement comment enseigner une langue étrangère à des étrangers qui sont étrangers à sa logique et à sa culture. Et
là, c'est ce que j'ai écrit, une phrase en effet.
Voilà.
C'est une phrase que j'ai écrite en effet.
Alors la réponse à la question, comment ?
Eh bien c'est très compliqué, je crois que je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas seulement là pour enseigner, mais que j'étais là pour savoir comment enseigner. Comment je peux enseigner l'anglais à des Chinois qui n'ont pas qui sont étrangers à la culture anglaise ou américaine, ou peu importe, anglo-saxonne, parce qu'ils ne sont pas nés, parce qu'ils n'ont pas vécu dans un pays du Commonwealth. Bon. Donc ça veut dire qu'ils ont, de l'Angleterre ou des États-Unis, ils ont des données virtuelles, essentiellement. Parce qu'il y a combien d'étrangers aussi? Il y a Gene Dudgeon. Il y a un certain nombre d'étrangers qui viennent dans les centres céramiques du Sculpture Workshop ou de Sambao, du Centre International de Céramique de Sambao. Bon, mais il y en a 20 par an. Qu'est-ce qu'on va faire avec 20? Et puis, ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire. Donc, on ne peut pas vivre avec eux. Et c'est pas, on ne peut pas vivre avec un... On ne vit pas non plus avec ses professeurs d'anglais.
Quoi que vous les invitez chez vous, etc.
Je les ai invités chez moi. C'est vrai qu'on a fait des cours dans mon appartement. C'est un choix que j'ai fait. Donc, je ne pense pas que ça se fasse beaucoup en Chine. Au niveau des profs chinois, je ne pense pas qu'ils le faisaient. J'ai invité mes étudiants dans mon appartement. Ils ne sont pas tous venus, hein, parce que j'ai des classes, une classe de 63 élèves. Donc, on ne peut pas rentrer 63 élèves dans un 4 pièces. C'est impossible. Mais... j'ai invité la classe de 33 élèves, mais 19 sont venus. Et la classe de 16 élèves, 16 élèves sont venus.
Voilà, ils font la cuisine.
On a fait la cuisine, mais le cours est en anglais et en chinois. Donc c'est cours de cuisine chez moi. C'est plus pratique que de cours de cuisine en cours. On ne peut pas faire ça.
C'est vrai. Et pour saisir la quintessence d'un peuple, la cuisine, c'est quand même une bonne...
Voilà. Et pour saisir la quintessence d'un peuple en anglais aussi, c'est donc faire la cuisine en anglais, c'est manger chinois en anglais. Donc c'est cet aspect-là que je trouvais intéressant. Alors, c'est un dépassement aussi.
Oui, ah bah, le déplacement.
D'inviter ses étudiants dans son appartement.
Surtout en Chine. Mais vous dites que pour apprendre l'anglais, il faudrait d'abord développer l'esprit d'initiative et d'innovation. Tout ça pour dire que finalement, apprendre des mots, apprendre des tournures, apprendre la grammaire, c'est très bien, on peut être même excellent.
Oui.
Mais on ne va pas au fond des choses, et le fond des choses, c'est...
Le fond des choses, c'est de vivre un certain nombre d'années, je pense, d'une part dans le pays, dans ce pays où vous êtes. Et d'autre part, c'est peut-être, mais ça c'est plus personnel, c'est qu'on a une sensibilité ou un désir d'aller vraiment vers les autres, et de pas ramener, je dirais, sa propre culture, de pas de laisser tomber en fait, on peut le faire, de laisser tomber sa culture, de laisser tomber ce qu'on est, et de faire un effort quoi, de faire des efforts. Pour comment dire ça, je sais pas, oui, pour
essayer de mieux comprendre finalement
de comprendre, de vivre les choses à l'intérieur, pas simplement en surface, c'est ça. Mais bon, ça oui. C'est un choix personnel après.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à vos étudiants, comment leur apprendre l'esprit d'initiative et d'innovation? Vous êtes professeur.
Oui, c'est vrai que j'ai parce que ça c'est le problème, c'est difficile parce que c'était parce que je me heurtais à la face. C'est ce que j'explique dans ce livre, c'est-à-dire que si mes étudiants prenaient une initiative personnelle, ils allaient dévoiler leur face, ils allaient montrer leur face, ils allaient être original, par exemple. On ne peut pas être original. On peut être original, bien sûr, il y a des artistes qui sont à Pékin, à Shanghai ou ailleurs, qui sont originaux, chinois, donc ils sont originaux. Mais il faut faire quand même attention à la face. C'est-à-dire que ne pas blesser la face de l'autre, mais pas ne pas être blessé, ne pas avoir sa face blessée. C'est-à-dire que donc, on ne peut pas, en Chine, d'une certaine manière, enfin, en tout cas avec mes étudiants, j'en ai eu très peu quand même, qui étaient originaux ou qui pouvaient vraiment développer une initiative personnelle en classe, je dis bien, ou innover. Alors maintenant, je ne parle pas de l'innovation scientifique, etc. Oui. Ça existe. En effet, c'est une autre question. Mais je ne peux pas rentrer dans des choses comme ça. Mais,
mais en tout cas, vous les avez bien déboussolés.
Déboussolés, oui. Je crois que j'ai bien déboussolé, mais je pense que...
Ils ont appris
sur
des choses.
Quand même, sur 500 étudiants que j'ai eus et 400 enfants. Bon, les enfants, c'est un peu différent, mais les 500 étudiants en une année, je pense qu'il y en a quand même au moins les deux tiers tout de même qui... aimaient ce professeur, voilà, un peu atypique, c'est vrai.
Et qui donc, voilà, du coup, aimaient bien l'anglais, s'ils aimaient,
voilà,
leur
ils aimaient bien l'anglais, faire l'anglais avec moi. Oui.
Voilà. Alors, vous avez une théorie intéressante que vous développez dans votre livre sur les boîtes situationnelles.
Oui. Bah, en fait, c'est pas une théorie, donc je ne veux pas appeler ça une théorie. Mm-hmm. Je veux dire que c'est plutôt un moyen ou une méthode ou bon, système théorie, ça me gêne un peu parce que les mots français qui veulent quand même sont assez
c'est vrai.
Un peu forts. Donc c'est plutôt un moyen pour essayer de comprendre les Chinois. Au départ, c'était pour comprendre les Japonais. Et puis en fait, il m'a fallu un certain nombre d'années, enfin pendant toutes ces années en Chine, je me suis rendu compte que ce moyen que j'avais de comprendre les Japonais, je pouvais l'utiliser aussi en Chine. Je me suis rendu compte. Donc qu'est-ce que c'est que ces boîtes? C'est qu'en fait, d'abord, il y a quelque chose que j'en parle aussi, ça s'appelle l'éventail. Enfin, c'est l'éventail des possibles. Il faut commencer par ça. Donc, on prend un éventail japonais Sensu, un éventail qui se déplie, comme ça. Donc, sur cet éventail, il y a des lamelles à l'infini. C'est vrai que c'est l'infini en Chine. Il n'y a pas... On ne va pas faire ça ou ça. En France, on va faire ça ou ça. C'est ça ou. Il y a toujours la préposition ou. Je fais ça, tu es ça ou tu es ça. Ça, c'est bien, ça ou ça, c'est mal. Lui, il est gentil ou il est méchant. Celui-là, cette situation, elle est bien ou elle est mal. Bon, donc, on est toujours avec le ou. Et au Japon, au départ, donc, j'avais découvert qu'en fait, au Japon, ça fonctionne avec le et. C'est-à-dire que il y a ça et ça et ça et cette situation-là et cette situation-là et ça et ça et ça à l'infini. Et qu'est-ce que c'est que ces situations? C'est des boîtes. J'ai appelé ça des boîtes, si on veut. Des boîtes, mais qui sont jamais fermées complètement. C'est toujours il y a une certaine fluidité. Parce que dans la langue chinoise elle-même est une langue fluide. C'est une langue qu'on ne peut pas... qui flotte.
Et d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre que le français et l'anglais, c'est une langue, quand on pose une question, ça en appelle une autre.
Oui, tout à fait, c'est la méthode déductive.
Voilà, et qu'en chinois, il n'y a pas ça. Et ça
il n'y a pas de méthode déductive en chinois, parce que on vit ce qu'on vit au moment où on le vit. Alors pourquoi il y aurait une conséquence à quelque chose? Il n'y a pas de conséquence à quelque chose. C'est dans ce sens-là. Bon, il faut lire le livre, hein, parce que je ne peux pas développer vraiment toutes ces idées. Mais... c'est vrai que donc le système de boîte, c'est quoi ces boîtes? Les boîtes, c'est en fait des situations. Je vis une situation maintenant. Dans 3 heures, je vis une situation maintenant. Demain, je vis une situation maintenant. Hier, j'ai vécu une situation maintenant. Tous ces maintenant n'ont aucun rapport. C'est des boîtes de temps, de gens, situationnels, de l'espace-temps. Ce que j'ai vécu là, après, je le rejette, parce que sinon j'aurais trop de choses dans la tête. Donc, je me vide. Ça décante. Il n'y a rien dans la tête. Ma tête est vide. Mais c'est formidable, la tête vide. Parce que ça permet de rentrer des choses. Donc, on ne peut pas garder tout ça. Donc, les choses qu'on a vécues, agréables ou désagréables, peu importe, on les rejette. Elles partent dans l'espace-temps, on n'en a plus besoin.
Et on est tout neuf pour autre chose.
Bon, alors maintenant, c'est vrai que j'ai parlé de la question de l'oubli, c'est vrai que les Chinois ont tendance à oublier. C'est-à-dire que comme on rejette les choses, on a oublié. Mais c'est normal, ça, c'est lié au fait qu'on peut se vider la tête. Donc si on se vide la tête, c'est bien, parce qu'on n'a rien dans la tête. Et on ne vient pas, et je ne viens pas moi en classe, comme je l'ai souvent expliqué, je ne viens pas en classe en disant... voilà, je suis français, professeur, blabla, j'ai un doctorat de la Sorbonne, etc. J'ai fait ci, j'ai fait ça, blabla, tout mon CV. J'ai pas besoin de délivrer mon CV. Je suis moi, je suis naturel, je suis ce que je suis au moment où je suis. C'est cette boîte-là que je suis en train de vivre. Que je vous fais vivre. Merci.
Très très bien. Vous qualifiez le comportement des jeunes Chinois que vous côtoyez de sans gêne. Pourquoi?
Oui, enfin, se mis sans gêne, entre guillemets.
Entre guillemets, oui. À la radio, les guillemets.
Pas... Donc moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que je l'ai écrit dans ce livre, je ne critique pas les Chinois. Hein. Je suis bien obligé. Enfin, je veux dire, non, je fais des observations tous les jours, j'observe, et je m'observe moi-même. Donc, le sans gêne, c'est plus... c'était parce que c'était le cours que j'avais fait dans mon appartement, ça devait être le premier, avec ma classe business. À un moment donné, donc comme je devais aller partout, j'avais mes 19 étudiants, il fallait que j'aille aux toilettes, que j'aille à la cuisine, que je regarde les épluchures, on me demandait des trucs sur les chopsticks, enfin les baguettes, en même temps, on me demandait 20 choses, on me demandait 100 choses en même temps, donc il fallait que je sois partout en même temps. Et au même moment, dans le salon, il y a quelques étudiants qui allument la télé. mais sans me demander mon avis. Et il commence à taper sur le boîtier n'importe où, n'y comprenant rien. Et je leur explique en chinois, je leur dis, mais vous avez un boîtier, c'est écrit en chinois dessus. Vous pourriez donc utiliser le boîtier. Donc je veux dire, sans gêne, c'est juste ça. Mais quand je dis sans gêne, c'est entre guillemets, je tiens à préciser. Et c'est que c'est pour donner l'exemple que si cela arrivait avec d'autres Français, moi j'en ai entendu d'autres Français dire ils sont sans gêne. Ils tapent sur le truc, ils demandent même pas la permission, ils vont s'ils font ça. Pourquoi je dis ils sont sans gêne? J'explique. Parce que les enfants en Chine, au Japon c'est pareil, les enfants en Chine sont des enfants rois. L'enfant est roi. Notamment les garçons. Les garçons, les parents ne leur disent rien. Les parents ne vont jamais dire non. Je donne beaucoup d'exemples. Hein. J'ai eu les petits... Enfin, ce n'étaient pas mes neveux, mais presque. Chinois, donc deux petits garçons de 4-5 ans. Quand ils font des crises devant leurs parents, j'en ai vu. Je ne raconte pas dans mon livre, mais j'ai eu des crises de jalousie ou des crises des caprices.
Oui, bien sûr.
C'est terrible. Mais les parents, c'est pas comme nous. Nous, les gamins qui font des caprices, prennent une tarte, voilà. Vite fait. Bon,
et après,
ça peut arriver. Voilà. Bon.
Et après, ces enfants vont grandir.
Non, parce que nous, on fait ça complètement différemment. Nous, on donne des limites aux enfants. En Chine, il n'y a pas de limites spatiales, spatio-temporelles. Ça n'existe pas, les limites. Donc, il ne peut pas y avoir de limites. Donc, il n'y a pas de raison de on ne va pas... on frappe les enfants, bien sûr, pour des raisons diverses. Bon, ils n'ont pas bien appris leurs idéogrammes, ok. Mais moi, je l'ai vu aussi. Bon, moi, je dis rien. Hein, moi, je n'ai pas à intervenir là-dedans. Mais je veux dire, c'est des choses peut-être qui... Là, c'est un sujet qui fâche. Moi, j'en ai parlé avec mon amie chinoise en Chine. Quoi, on est sans gêne? Non, mais que tu racontes? Attends, et toi, les Français, blablabla.
Et finalement, ça ne veut peut-être même pas dire la même chose.
Non, alors voilà, peut-être que ça ne veut pas dire la même chose, parce que les mots en français, les mots français, les mots anglais traduits en chinois ne veulent pas dire la même chose, n'ont pas le même sens. Donc je donne beaucoup d'exemples dans ce livre de mots qui ont d'autres sens. Ouais.
Très bien, c'est vrai qu'il faut lire le livre pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, j'ai remarqué que c'était pas facile tous les jours, la vie à Qingdechen, parce que dans votre appartement, il y a des cafards, des punaises, des moustiques, et il n'y a pas de chauffage en hiver.
Voilà.
Donc je ne suis pas sûre que ça donne envie à beaucoup de professeurs d'aller enseigner en Chine.
En effet, mais bon, Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais un cafard qui se promenait sur mon lit. Voilà. J'ai l'habitude, parce que les cafards, je les ai connus d'abord quand j'étais en Afrique, quand j'étais enfant. Donc c'était des grands, c'est les plus gros, comme au Japon, et qui volent. Là, ça vole. Hein. Et puis vous en recevez sur le corps. Donc j'en ai reçu sur le corps. J'ai pas dit que je les ai invités à rester, mais donc les cafards, je connais. Bon, les moustiques, c'est pareil. C'est pas gênant. Les punaises, ça va.
Le chauffage,
c'est vrai que ça m'a posé un problème. Donc il a fallu que j'achète des. Bon, je l'ai fait. C'est pas très cher la vie Qingdechen, mais j'ai donc acheté des bains d'huile. Mais c'est bon, donc il faut tirer son bain d'huile. Il faut quand même vivre avec un bonnet, parce qu'il fait très très froid à Qingdechen l'hiver. Beaucoup plus froid qu'à Shanghai. Bon, il fait moins froid qu'à Harbin, bien sûr. Mais
ce que ça veut dire, en tout cas, c'est que vous avez un logement, vous louez un logement, que vous payez...
Non, je ne loue pas. C'est un logement de fonction.
Oui,
voilà, c'est ça.
Mais un logement de fonction sans chauffage,
sans chauffage.
Ça fait pas envie, quoi.
Non, mais voilà, donc il faut faire avec.
Bon,
alors, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça marche, c'est bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on fait avec, on vit avec, et on vit dans les... Bon, j'ai vécu dans des conditions aussi un peu spécifiques, pas comme un certain nombre d'expatriés que j'ai pu connaître à Qingdechen ou à Shanghai. Donc j'ai vécu dans des conditions un peu minimales de gens pauvres, mais ça ne me dérange pas, voilà.
Je veux dire que j'apprends aussi.
Pardon ?
Heureusement, parce que sinon ça aurait été difficile.
Non, voilà.
Alors en tout cas, on a bien compris que vous avez fait énormément de choses en Chine. Vous avez aussi vendu des cartes postales, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Vous avez enseigné, visité le Yunnan, vous avez voyagé, etc., etc. Vous enseignez où à la rentrée prochaine ?
J'ai fait une demande de poste à Bangkok.
Bangkok, bon, alors très bien.
Voilà.
On vous réinvitera pour la
Thaïlande.
Encore
plus chaud.
François Gonse, merci. Je rappelle l'apparition de votre livre, Professeur d'anglais en Chine, paru aux éditions de l'Harmattan.